Gerhard, Angela, bitte die, patata. Gerhard, Angela, on vous le dit tout bas. Soyez grand, soyez-vous. Mais enfin, mariez-vous. Angela, Gerhard, les médias vous disent, les mariages de raison font de bonnes maisons.
Ouais, Daniel, bonjour, c'est Jean-Yves de l'Essonne. Écoute, je vais te dire un truc, je suis mort de rire. Mais je suis mort de rire, j'en ai mal au ventre. Voilà, le frère de Sarkozy qui a été pendant longtemps à passer dans des émissions de télé, à donner des grandes leçons d'économie à tout le monde, et ainsi de suite quand il était candidat à la candidature pour le patron de France, là. Et voilà un monsieur qui aujourd'hui dépose le bilan de son entreprise. Alors là, c'est vraiment à mourir de rire. Ah, des leçons comme ça, forcément, ils nous en donnent tous les jours. Alors, un petit peu plus, un petit peu moins, on n'est pas à ça après, quoi. Mais c'est extraordinaire, quoi. Vraiment, c'est fabuleux. Enfin, bon, la belle vie continue, quoi. Ça va toujours. Allez, à bientôt, Daniel. Ciao.
Ouais, j'appelle parce que ce matin, il y avait, sur une radio publique, c'était pas France Inter, hein, c'était France Bleu, il y avait un débat, là, on pouvait appeler pour dire ce qu'on se pensait de la réforme, là, du gouvernement qui va nous sucrer nos allocations chômage, quoi. Et, moi je suis au chômage depuis un mois et demi, ça fait pour bien longtemps, donc, je pensais que c'était dur matériellement, de ce côté-là ça va encore, mais alors socialement, les chômeurs c'est tous des feignants, des parasites, ils profitent des allocs, ils travaillent au noir en touchant le RMI, sur 10 personnes qui ont appelé, il y en a 8 qui ont tenu ce discours, quoi. Franchement, je savais que les médias et les politiques avaient tendance à culpabiliser les chômeurs, mais alors à savoir que c'était aussi ancré dans la population, moi ça me... Franchement, là aujourd'hui, je suis écœuré, là. Je suis écœuré de ce pays de merde, tiens. Ça me dégoûte. Ce que je me dis, c'est que ces gens-là, ils doivent être quand même vachement vertueux, quoi. Parce que c'est si intéressant d'être au chômage et toucher les allocs et de travailler au black, mais pourquoi ils le font pas, quoi? C'est vrai, quoi. Allez-y, lâchez-vous. Qu'est-ce qui vous retient, là? Votre prétendu moral? Mais vous encombrez pas de ça, parce que de toute façon, vous avez perdu toute valeur de la solidarité et de la fraternité, mais allez-y, quoi. Je voudrais adresser un message de solidarité très fort avec tous les chômeurs, à tous les chômeurs qui nous écoutent, parce que moi, je découvre pas le chômage, enfin, je tombe pas des nues, hein. J'ai toujours été solidaire des gens dans la misère, j'ai toujours pensé que c'était dur, mais alors, un isolement social comme ça, une culpabilisation comme ça, c'est vrai que je m'y attendais pas à ce point-là, quoi. Voilà.
Bonjour, de Michel en Ardèche. Je réagis par rapport à un témoignage que j'ai entendu hier sur votre émission. Un monsieur de Perpignan qui disait qu'on lui avait proposé un travail à Montpellier et qu'il l'avait refusé parce que c'était trop long pour lui de se déplacer entre Perpignan et Montpellier. Alors moi, je lui propose eh bien qu'il reste dans son lit et peut-être qu'on lui apportera du travail, comme ça, en position couchée, sans bouger. Merci, au revoir.
Les marins sont emmerdés l'aurore, emmerdés le matin, emmerdant la journée. Ils ont la mer devant, ils ont la mer derrière, la mer de tous les côtés.
Bonjour, c'est pour annoncer un nouveau café repère. Paris 20e, pour changer un peu, on va revenir à Paris. Alors, on est des copains du 20e, on a choisi le café lieu dit, 6 rue Sorbier, 75-020 Paris, 01-40-33-26-29. Et le premier rendez-vous, c'est samedi, le prochain, le 24 septembre, à 16h. Voilà. Et si j'ai pas été assez claire, j'ai aussi envoyé un mail. Voilà. Et merci pour l'émission et à bientôt.
Oui, bonjour, c'est Danée Griffanti de Cernay dans le Haut-Rhin. J'aimerais savoir la procédure à suivre pour ouvrir un repère pour le repère là-bas, si j'y suis. Merci. Au revoir.
Eh ben voilà, c'est pas compliqué pour ouvrir un repère. Là-bas, si j'y suis, il suffit de se réunir entre copains, puis de choisir un bistrot, comme voilà, comme ces amis là de là-bas, si j'y suis, du café Le Lieu Dit, donc dans le 20e, ils ont décidé de d'investir ce bistrot et de s'y retrouver pour la première fois. On verra bien ce que ça donne. Le samedi 24 septembre à 16h, voilà, vous faites ça dans votre coin à Cernay dans le Haut-Rhin, vous dégotez un café sympa qui vous plaît, qui est assez grand, où tout le monde peut venir, hein, et vous dites, voilà, nous on va se retrouver toutes les semaines, ou à partir de tel jour, et c'est les amis de là-bas, si j'y suis, c'est simplement que dans votre coin, là-bas, dans le Haut-Rhin, il y a peut-être d'autres auditeurs, auditrices que vous, et vous le savez pas, donc ça semble peut-être intéressant et amusant de se retrouver pour parler de la pluie et du beau temps, et de parler, par exemple, de l'émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui, c'est dédié à la chanson, ça peut pas être dire pas titre d'eau, oui, c'est la moindre des choses sur France Inter que de dédier une heure à la chanson. Oui, mais c'est pas toujours que la chanson, les chanteurs, les artistes de la chanson arrivent à être des révélateurs sensibles d'une époque. C'est pas automatique. Il y a des tas d'artistes qui sont à un moment comme ça précis, qui reflètent à un moment l'époque, et puis il y a ceux qui restent longtemps, qui pour le peut-être pas la nuit des temps, mais très longtemps arrivent à refléter leur époque après que les poètes aient disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Et est-ce que ce sera le cas de la rumeur? Mais ceux qui pensent à Trenet, à Brassens, à Ferré, à Brel, etc., se disent, mais non, quoi, des rappeurs, comment est-ce qu'ils pourraient être un jour? Et qui vous dit que ces gens-là ne sont pas en phase complète avec l'époque et qu'ils la racontent et qu'ils resteront? C'est en tous les cas le pari qu'on a fait avec Olivia avec cette heure de reportage sur eux. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'ai suivi beaucoup de réactions sur les pavillons de complaisance et sur les conditions de la navigation aujourd'hui sur le Bolkestein des mers, le reportage de François Ruffin. 01 56 40 37, c'est le numéro du répondeur, mais ça vous le saviez.
Salut Daniel, je tiens à t'alerter à propos d'un problème très grave. Je viens d'être informé que la directive Bolkestein va s'appliquer à nos hommes politiques et ils ne le savent pas. C'est-à-dire qu'un Polonais, un Chinois, pourra être sénateur payé au tarif de leur pays. C'est terrible. Les centrales d'achat d'électeurs, les partis, ne pourront pas suivre la concurrence en France. Connaissant ta générosité, permets-moi de lancer cet appel. Donc je lance cet appel pour que nos politiques éliminées puissent recevoir une croisière, par exemple. Monsieur Raffarin, donc, il ne sera pas éliminé, n'est pas éliminé, donc il n'y aura pas droit. Tant pis pour lui. Au revoir.
J'écoute là, ces messieurs sur les personnes dans le monde entier, là, les Malais, les Chinois, les tout ce que l'on veut. Et je me souviens d'un livre que certainement beaucoup de gens ont lu, « Les raisins de la colère » de Steinbeck. J'avais 18 ans et j'en ai 60 passés. Et j'ai vraiment l'impression que je vis à nouveau dans ce monde de ces gens qui faisaient la queue pour trouver du travail. Et le premier, on lui disait « tu travailles pourtant » et l'autre qui était deux places plus loin disait « moi je travaille pourtant » et ainsi de suite comme ça. Et évidemment, c'est pas réjouissant. Enfin, espérons que ça n'arrivera pas et qu'on essaiera les uns et les autres de faire en sorte que ça n'arrive pas ou tout au moins qu'on limite les dégâts. Au revoir.
Dans le monde de Bolkestein, il y a des marins qui crèvent en bouffant des OGM de chez Lidl sur des nappes même pas blanches. Dans le monde de Bolkestein, on crève tous avec eux en picolant des spiritueux pour pisser sans pleurer sur les directives et sur l'euro. Oui, je sais, ça rime pas, je chante faux, c'est la cata, quoi. Bon, qu'est-ce que vous avez contre les gens qui chantent faux?
Bonsoir, je viens d'écouter votre émission sur la marine marchande. Et je viens d'y apprendre que notre cher Sénat était à l'initiative d'une réglementation, ou même plutôt une déréglementation, dont même Bolkestein n'aurait pas rougi. Je suis vraiment écœuré, parce que le Sénat, c'est vraiment le cocon douillet de la Ve République, où les recalés du suffrage universel viennent confortablement toucher environ 10 000 euros par mois. Comment, en étant si planqué, on peut oser avoir des idées aussi libérales? Voilà, je me demande. Bon, voilà ce que ça m'inspirait, cette histoire. Christophe Détempe.
Oui, bonjour. Frédéric Calpozo, à bord du car ferry Méditerranée de la SNCM à Marseille. Vous avez réalisé sur deux jours une émission édifiante au sujet des pavillons de complaisance. Eh bien, sachez que c'est ce qui va nous être appliqué sur les lignes du Maghreb avec le RIF, Registre International Français, plus la vente totale de la compagnie de services publics à un fonds d'investissement financier. Alors, monsieur de Villepin, 100 jours pour l'emploi avec à la clé 1500 licenciements directs et au moyen autant induit, la mise en place du Bolkestein des maires français, le RIF, ça c'est de l'engagement politique. Il est temps que les citoyens sachent aujourd'hui que le gouvernement français est un patron voyou et que nos dirigeants utilisent les caisses entre et pour les amis. Merci, au revoir. Au revoir.
Bonjour, je viens d'entendre l'émission à propos de la marine. Je voudrais simplement vous dire, faites attention par rapport aux nationalités. Le problème n'est pas de la nationalité de la personne qui va être employée sur un bateau, mais c'est le problème d'appliquer le même droit à toutes les nationalités.
Le personnel de la régie d'électricité des Deux-Sèvres. Le service public de l'électricité dans les Deux-Sèvres est en danger. La régie gérait la fourniture d'électricité et réinvestissait l'intégralité des excédents dans le réseau public. Aujourd'hui, l'organisation engagée en partenariat avec le groupe privé Suez fait que les fonds dégagés seront distribués aux différents actionnaires. Dans ce contexte, la régie, dépouillée de ses ressources financières, ne pourra plus assurer sa mission de service public de distribution d'électricité auprès des usagers. Il est donc impératif de maintenir le service public au sein de la régie. Plus d'informations sur regides.site.voila.fr. regides.site.voila.fr. Merci de votre soutien. Au revoir.
Depuis quelque temps, les grands médias aiment les artistes engagés. Enfin, pas tous. Ceux qui vont dans le bon sens, le leur. Vous connaissez Benjamin Biolay, qui, comme chacun sait, n'hésite pas à mouiller sa chemise et à payer de sa personne dès qu'il s'agit de défendre la justice et les droits de l'homme. Hier, il était l'invité du journal de 13h sur France 2, bien décidé à nous balancer son message politique. Intéressant, non? S'agissait-il pour lui de dénoncer le racisme, d'avancer des propositions pour lutter contre la précarité et la pauvreté, ou d'annoncer qu'il se remue les fesses pour faire reculer les inégalités? Non, non. Benjamin Biolay, gendre idéal d'une star du cinéma français et à ce titre chanteur apprécié des médias, Biolay, ce grand artiste qui pose pour la redoute parce que c'est bon pour la promo, venait cracher sa détestation des altermondialistes. Et c'est étrange comme en le regardant me revenait en tête la belle et forte voix de Jacques Brel chantant Les Bourgeois. Mais ça, c'est quand le chanteur est un poète, à l'écoute des hommes. Pas un faiseur de tubes en quête de reconnaissance médiatique.
Vous en avez pensé quoi d'un film comme La Haine et l'image qu'il donne de la banlieue?
La grosse merde. Ça pue, c'est fait par des imposteurs avec un scénario pourri.
Pourquoi imposteur? Parce qu'ils viennent pas de là-bas?
Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est une vision complètement gadget et cliché de la banlieue. C'est encore ce genre de gars quelque part qui entendent ce que les autres vivent et qui se font de l'argent avec, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et puis voilà quoi, c'est les acteurs pitoyables, Cassel dans son rôle de Kaira, pas crédible une minute, c'est de la merde quoi. Et puis bon, pour faire court aussi, moi le cinéma français personnellement, le nouveau cinéma français, fils de Intel quelque part, qui sous prétexte que voilà, papa il est producteur de cinéma, ou et ben quelque part c'est devenu consanguin, quoi. C'est devenu une nouvelle aristocratie quoi. Tous ces mecs là c'est de la merde et franchement. On boycotte complètement.
Je suis un arabe repris, en sursis m'a-t-on dit, une tige d'ortie promise aux ennuis, et qu'il en soit ainsi.
Le greffier, le prévenu n'exprime aucun regret. Veuillez verser au dossier, à charge pour dommages et intérêts. Article 25 bis, alinéa premier.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Olivia Gesbert, la rumeur, regain de tension.
Flight number 2, arriving from New York.
Ouais, toi aussi c'est bien, toi t'as un bon flow, t'as une bonne façon quelque part de rapper, mais le problème c'est que des fois j'ai l'impression que je tourne le dos quand tu rappes. Donc tu vois, il faut que tu regardes les gens en face, tu vois, et que t'articules aussi, que t'articules bien, tu vois. Et ouais voilà, et pas faire ça quoi, parce que c'est clair que si tu fais ça les gens vont rien comprendre. Donc il faut que toi tu calmes bien le truc. Ok ? Donc là je vous laisse une petite dizaine de minutes, histoire de voilà quoi, de vous briefer entre vous et tout, tranquille, sans qu'on vous déconcentre, nous on reste là. Et ensuite on fera un dernier tour de table jusqu'à 5h. De façon à ce que demain, pour ceux quelque part qui ont encore quelques hésitations au niveau de leur texte, tu vois, je veux dire, et des trucs encore un peu hésitants, il faut que demain, à la fin de la séance, ce soit impeccable. Impeccable, impeccable.
Voilà, voilà, c'est le cours de rap, ça se passe à Houille, dans le 78, et les artistes de la rumeur, eh bien, enseignent, partagent leur art, qui est le rap, mais qu'ils font d'une façon particulière. Ils font un rap contestataire, un rap qui refuse d'être du rap Afrique, et ils sortent un nouvel album. Et on les aime bien. Je vais vous dire pourquoi on les aime bien. L'an passé, on avait fait une série de reportages. C'était des reportages d'ailleurs de Guy Vanctil sur les prisons pour mineurs. Comme toujours dans les émissions, on cherche les musiques qui peuvent correspondre au reportage, bien évidemment. Et là, on était tombé, mais c'était extraordinaire comment les raps de la rumeur coïncidaient parfaitement avec les reportages. On a voulu les rencontrer, on a eu l'occasion de les rencontrer. Mais comment vous travaillez? Est-ce que vous êtes allé par exemple en prison? Oui, non. Mais on a trouvé que leur travail était formidable pour raconter ce qui se passe en ce moment dans ces fameux quartiers sensibles, tellement fantasmés, tellement instrumentalisés, tellement récupérés dans une sorte de salaire de la peur, ce salaire de la peur qui veut supprimer, exploiter le sentiment de peur, sentiment d'insécurité, mais sans jamais, surtout, essayer de comprendre les causes de ces fameuses violences, ni évidemment aller à l'origine de ces violences. Or, c'est exactement ce que font les gens des quatre garçons de la rumeur. C'est une interrogation sur leur présent, bien évidemment, un présent très engagé, de contestation, mais aussi, vous allez voir, sur leur passé, sur leur mémoire, et qui est au fond, bien sûr, évidemment, sans se redouter, notre passé, notre mémoire. C'est jusqu'à 18h, c'est là-bas, si j'y suis, c'est la rumeur, regain de tension.
Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure, invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major.
Bref, rien de bien nouveau sous le soleil, les mêmes vieilles chiennes sur leurs vieilles piles d'oseille. Ces bonnes vieilles lois pour nos bons vieux trois rats, un extra cette fois, un trophée ces derniers mois. Une portée de gorée s'est coincée entre les mailles de mon filet. J'y ai même trouvé un code pénal à tranche dorée, expédié par voie d'huissier, avec tous les bravos du 9 place Beauvau. Le pompon, la cerise, je crois à ma plus grosse prise, ça me changera des frises et de la bouillie pour chat, concert aux grandes fêtes foraines républicaines. Ça m'inspire l'amour et la joie qui fait défaut à mes rengaines bien trop chargé de haine.
Pendant que la censure peine de tous ses efforts, et que d'obscurs syndicats de porcs, en cas d'encombrante bavure invoque le coup du sort, et nous convoque leur état-major.
L'ombre sur la mesure, c'est comme ça qu'on l'a rebaptisé. Parce que c'est ici qu'on a tourné le clip L'ombre sur la mesure. Je sais pas quelle place c'est, on est près du quartier des Abbesses. Sur ce banc.
Ouais, et puis le premier disque de la rumeur, la photo donc qui illustrait le disque, le maxi, elle a été faite sur ce même banc.
Un jour dans 30 ans, 40 ans peut-être, on fera à la rumeur ce qu'on vient de faire à Brassens. J'entendais à l'instant l'hommage à Georges Brassens. Il y a 40 ans, Brassens était interdit. Sur cette antenne, même notre France Inter à nous, Brassens était interdit. Et Brassens, c'était un type tout à fait subversif, ça semble bien lointain. Eh bien, il l'était. Et notamment dans une chanson où il prenait les gendarmes à partie, disant qu'il les préférait sous forme de Maccabée. Oui, on a oublié ça, on a oublié. Et ça faisait une certaine rumeur à l'époque. C'est pas la première fois que la chanson, dans son rôle quand elle est subversive, c'est pas la première fois que la chanson était, avec Brassens, ce qu'elle fut au temps des goguettes, au XIXe siècle, où la police s'immisçait dans les cabarets pour faire taire ces chanteurs et de couplets qui dérangeaient le pouvoir. Entre le pouvoir et la chanson, il y a une vieille histoire de subversion et ben ça continue de nos jours. La récupération est là. Elle est ancienne, cette récupération, par des tas de moyens. La censure change de masque, mais elle existe toujours. Et ceux de la rumeur, aujourd'hui, eh bien, affrontent sous nos yeux ces mécanismes de récupération, de subversion. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Eh bien, c'est ces étincelles qui sont la vie et qui se transforment parfois en bulles d'oxygène dans l'aquarium de la démocratie. On va passer avec eux un moment. Vous entendez cette musique? C'est pas du rap, ça, mais c'est pas loin.
Dans vos clips, vous parlez pas mal de la banlieue, et comme tu dis, en même temps, vous avez décidé de prendre Paris comme décor. Pourquoi? C'est pour casser cette image un peu?
Non, absolument pas, non. C'est parce que, voilà, géographiquement, aujourd'hui, on est plus à Paris qu'en banlieue, quoi. Puis, on va dire que Paris la nuit et le vieux Paris, ça nous a toujours fascinés, quoi. La référence quelque part, voilà, au film d'Audiard, tu vois, de cette période un peu. Bon, c'est peut-être un peu un cliché de le dire, mais on aime bien ce côté un peu vieux Paris, ce côté avec un jargon qui est assez ancré et tout, tu vois. Donc on trouvait ça assez séduisant. Mais sinon, notre identité de banlieusard quelque part, elle transparaît de toute façon dans toutes nos œuvres, enfin je veux dire dans tous nos disques, quoi, quel qu'il soit. Et on considère que voilà, la banlieue, c'est une extension de Paris, quoi. Et de toute façon, c'est comme ça, je veux dire, géographiquement. Et quelque part, un banlieusard qui rentre au cœur de Paris, il arrive avec les yeux complètement écarquillés. Il se rend compte que, en vérité, c'est là ici que tout l'argent il est concentré. C'est ici que ça se passe, quoi, d'une certaine manière, quoi. Nous, on vient d'une banlieue où il n'y a rien, quoi. Où il n'y a pas de bus le dimanche, quoi.
Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous fournit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités de Rhône peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre.
Si Paris nous nourrit jusqu'à la gueule, je ne suis pas le seul. Les bouches pleines se retiennent ou bien des gueules. Et à l'accueil, les serpillères se dévoilent faibles. En quête de quoi rassasier leur soif du bout des lèvres. Paris crève, Paris affame aussi. Paris rejette les affamés de la nuit. Remontrance musclée, remettre les ecchymoses droites. Les palaves sont retaillées, les genoux se déboîtent.
De ce côté ici, Paris regorge de cash pleine. Sale comme cet énorme égout qu'on appelle la Seine. Faire son trou en se palpant le clou. Sous les jupons de laine de cette putain mondaine. Sans même lui bouffer la couenne. Que du bon engrais pour ma graine de schizophrène. Paris me pousse le crâne, Paname nous affame. Nous épluche des poches à l'os, des couilles à l'âme. Dans l'urine lurée et le chômage de longue durée. Ces rejets de fumée, n'oublie jamais de parfumer. Les vies au rabais à dégager vers ses couronnes. En 3, 4, 5e, 6e zone. C'est comme ça qu'elle traite son arthrose et ses névroses. Qu'elle paye son potum, son crack, son valium. Paris me colle au cul, me coule au cœur comme un cholestérol fumeur. Et pourtant j'en ai pincé à ses rares heures. Où cette salope fut comme une sœur.
Tout à portée de main, rien entre les mains. Paris nous nourrit, Paris nous affame, Paris nous tient. Les cités de Rhône peuvent suivre. Bienvenue dans ce monde ivre.
Vous avez déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis craque un bourre-pif. Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts, à son puzzle. Moi, quand on en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Tu dis nous, mais apparemment vous venez pas du tout du même endroit, non?
La plupart ouais, sont issus de la même ville, dans les Yvelines, 78 à Élancourt. Et pour certains, comme moi, un parcours un peu moins, un peu plus accidenté, quoi, on va dire. Déjà, je suis pas parisien, je suis parisien ou banlieusard d'adoption. Je viens du sud de la France. Et j'ai atterri à Paris dans le cadre de mes études universitaires.
Et tous les quatre, vous êtes rencontrés comment?
Pour la plupart, on se connaît depuis qu'on est petit, quoi. On s'est rencontrés à l'école. Puis voilà, le truc, en fait, c'est un peu le truc bateau, c'est qu'on a découvert qu'on écoutait les mêmes musiques, qu'on avait un peu les mêmes points de vue, les mêmes accroches. et puis voilà, et de fil en aiguille, cette amitié s'est forgée, s'est amplifiée, puis ça a donné après les prémices de la rumeur. Puis après, il y a un mec qui nous a rejoint par la suite, et c'est devenu le combo définitif, la rumeur. Quoi. Là, ça a commencé la rumeur, en fait. Voilà.
On va commencer par le commencement, nom, prénom, identité.
On rappelle un morceau, ça.
Ça, c'est un morceau, c'est un des titres de l'album, justement. Un des titres d'un des morceaux de l'album, qui s'appelle Nom, prénom, identité. Bon, alors, Ekwe, Doji, 29 ans, d'origine togolaise, né en France.
Mourad, 32 ans, né pareil, en France, Paris.
Amé, 29 ans, né en France, enfant de travailleurs algériens, comme des milliers, des millions d'autres.
Et moi, c'est Philippe, 30 ans, d'origine des Antilles.
Quant à nos chances d'insertion sociale, je préfère encore la franchise du Front National, une évidence que je pense partager par tous les sauvageons de France prêts à tout saccager. Vivre dans la hantise de se faire dégager, quand on l'extériorise, je comprends que ça puisse soulager. T'inquiète, on connaît le pédigré des gens qui aiment les immigrés analphabètes avec un fort accent. Comment rester sobre? Je suis sombre comme un soir du 17 octobre. Triste événement sanglant, déjà quarantenaire, gardez vos plaques et vos bougies d'anniversaire. Et où on brûle la vie et qui nous pousse à le faire, regarde-moi dans les yeux, le frère dissuasif comme une arme à feu. Écoute, on a prévu d'acheter mon silence avec les ballons de foot de l'équipe de France. T'as cru que j'étais une pute ou l'amant de ta mère? Pendant qu'on y est dans les insultes, notre histoire s'arrête à l'âge de pierre. Le poids de ces mots révèle des certitudes avec lesquelles je devais dealer pour percer dans mes études. Et si aujourd'hui ce que je chante peut vous paraître peut-être une pauvreté affligeante, quand il y a de l'agressivité en face, obligé de parler sur le ton de la menace, question de dignité, et par extension mon nom, prénom, identité. Mon nom, identité.
C'est le fameux terme qui jaillit, auquel on aime bien tordre le cou, intégration. De fait, un sans-papier qui arrive à Roissy et qui s'époumonne pour un salaire de misère sur des chantiers et dans des conditions de travail ignobles, il est intégré. Il est intégré, mais il est intégré à quoi? Il est intégré au sous-sol. Nous, de fait, on est intégré. Qu'on soit né en France ou pas, qu'on soit, comme on entend souvent dire, enfant de la deuxième génération ou de la troisième génération, enfin peu importe, on est intégré de fait. Mais le mot intégration, c'est justement un mot qui n'est pas neutre, qu'on prononce pour éviter d'en prononcer d'autres. Moi, le mot intégration, je l'ai définitivement banni de mon vocabulaire.
Faudrait dire quoi à la place?
Égalité des droits, égalité politique, égalité sociale, dignité, décence. Et par rapport au mot intégration, si je devrais l'utiliser, ce serait pour demander à nos élites de s'intégrer. Intégrez-vous à nous, intégrez-vous au peuple. Il faut les aider à s'intégrer.
Voilà une idée, après tout, pourquoi est-ce que l'intégration marcherait dans un seul sens? Pourquoi est-ce qu'on a ce... Qu'est-ce que veut dire ce mot? On l'emploie, on l'entend, il passe de bouche à oreille depuis combien d'années. Mais qu'est-ce qui signifie? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot? Quel bruit ça fait ce mot si on le secoue, si on lui tape un petit peu dessus? Ben voilà, des questions que se posent ces garçons de la rumeur. Alors, oulala, chanteur engagé, poète, oui. Je ne sais pas si on leur demandait « Est-ce que vous faites la révolution ?» Je crois que j'ai l'impression qu'ils rigoleraient. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'ils sont, ils apportent une contribution à l'éveil d'une conscience collective. Et c'est beaucoup.
Quand donc on se définit comme des enfants d'Africains nés en France, des enfants d'Africains pauvres, on n'en met pas non plus de dire qu'on est des enfants de la colonisation. Je préfère ces termes, je préfère amener le débat comme ça. On le décline aussi dans des titres comme « Soldat lambda ». C'est parce que la France n'a pas rompu avec ça. Elle n'a pas rompu avec ça. Elle n'a pas rompu avec l'idéologie coloniale. C'est quelque chose du haut aujourd'hui de nos 29-30 ans. Une des plus grandes leçons que cette société nous a données.
Tu parlais de soldat lambda, c'est le refrain « une blanche égale de noir »
Comme au solfège, une blanche égale de noir, du haut de leur siège, un blanc égale de noir. Le fond de mon âme est noir avec un blanc.
Blanc soldat lambda qui ne tire jamais à blanc. Comme au solfège, une planche égale deux noirs. Du haut de leur siège, un blanc égale deux noirs. Le fond de mon âme est noir et y'a qu'un blanc. Soldat lambda qui ne tire jamais à blanc.
Ils aiment nous comparer aux singes. C'est ce qu'il disait à grand-père, grand et fier, vêtu d'un de ses plus beaux linges. Insoumis dans les gènes, se tenant droit comme un i. Sur le sol du pays, l'œil qui désobéit. Demande à tes vieux, les eaux de Paris, fin du 19e. Ces cages où ils exposent animaux et familles africaines. Et leur gâteau s'appelle tête de nègre. Les gens dégueulent encore et gardent un putain de goût aigre. Intègre, sale nègre, rien de plus qu'ils ont pas désintégré. Les intérêts, même sous zéro degré. Malgré les intempéries comme les insultes. Au casting, toujours pas de négro, comme dans ta série.
Et qui est-ce ils et qui est-ce du haut de leur siège?
Les élites, les élites, qu'elles soient économiques, politiques, médiatiques, sociales, ce sont nos élites et les institutions de ce pays.
Il n'y en a pas une de bonne institution?
Ça dépend ce que les hommes ils en font. Hein. On sait malheureusement que pour 90% d'entre elles, elles sont profondément réactionnaires et elles tiennent le discours, un discours qui tend à poser des questions à l'envers. Enfin, de notre point de vue, quoi. Sans forcément rentrer dans une vulgate marxiste ou quoi que ce soit. Bon, bah, le problème, il est clair, aujourd'hui. On a encore plus le sentiment, que quelque part, bon, voilà, les listes des problèmes de licenciement, les problèmes de chômage, les problèmes de, tu vois, de droit à l'emploi, à un logement décent, à une dignité, elles touchent, toutes les personnes, quelle que soit leur couleur et leur origine, quoi. Et justement, nous, on est solidaires, justement, voilà, de cet état de fait, quoi. Moi, je commence une phrase en disant « Quant à nos chances d'insertion sociale, je préfère encore la franchise du Front National. » Bah, c'est-à-dire que, voilà, quoi, on préfère avoir des vrais ennemis que des faux alliés, des fois. C'est triste, mais on en est arrivé là, quoi.
On parlait de tabou tout à l'heure. En voilà un gros aujourd'hui, quoi. Le passif colonial français. C'est d'autant plus important de poser cette question aujourd'hui que depuis le 11 septembre, donc à la faveur de la croisade lancée par Bush, on assiste à une réactivation de l'idéologie coloniale. Et elle fait des émules en Europe et en France. Ça nourrit en permanence et à 100% et systématiquement la moindre de nos rimes, le moindre de nos textes, la moindre de nos approches. Dans un texte, Ekwe dit « Je suis sobre comme un soir du 17 octobre, triste événement sanglant, bientôt quarantenaire. »
Gardez vos plaques et vos bougies d'anniversaire.
Et oui, on brûle la vie et qui nous pousse à le faire.
Regarde-moi dans les yeux.
Le frère est dissuasif comme une arme à feu.
Bah, c'est un massacre colonial perpétré, voilà, par l'État français. Je reviens dessus parce que c'est ce qui nous tord le plus les tripes aujourd'hui, quoi. Et notamment par le biais de la question des crimes policiers. Et de l'impunité manifeste dont ils bénéficient aujourd'hui, quoi.
On fait une pause café, moi j'aimerais bien, ouais, vous avoir les quatre autour.
Okay, pas de problème.
L'infamie perd, c'est laisse des trous. L'infamie perd, c'est laisse des trous. On m'a demandé d'oublier les années de saignée, le mépris planifié à tour de bras renouvelé, les carnages organisés, les mises en charpie autorisées, les songes et espérances liées balafrées. On m'a demandé d'oublier ces rayons de gloire qu'a pu darder une nation à nous expédier en charbon. Des années après l'industrie te perfore les poumons, sinon pas déjà tâté les balles au front, en première ligne, tir à canon. On m'a demandé d'oublier les noyades occultées d'une dignité, sa mémoire. Les chapes de plomb, les écrans noirs, plaqués sur toute l'étendue des brûlures d'une histoire. Et le prix des soulèvements, les trop pleins, de martyrs étouffés, de lourds silences au lendemain. De pogroms en plein Paris, de rafles à la benne. Et ce 17 octobre 61 qui croupit au fond de la Seine. On m'a demandé d'oublier. L'infamie perce et laisse des trous. L'infamie perce et laisse des trous. Perce et laisse des trous.
Ekwe Doji, 29 ans, d'origine togolaise, né en France.
Mourad, 32 ans, né pareil, en France, Paris.
Amé, 29 ans, voilà, je sais pas ce que je peux rajouter d'autre.
Et moi c'est Philippe, 30 ans, d'origine des Antilles.
Modeste et géniale, parfois contribution à l'éveil d'une conscience collective. La rumeur aujourd'hui, est-ce que c'est des grands poètes? Bon, on sait pas encore, on peut pas savoir. Mais en tous les cas, c'est vivant, ça conteste, ça bouge, ça se prend le chou, ça, il y a de l'énergie là-dedans. À un moment où on veut bien Rimbaud, mais empaillé, on veut bien Ferré, mais en DVD, on veut bien Renaud, mais récupéré, on veut bien Le Che, mais en protège-cahier, on veut bien Van Gogh, mais crucifié. Voilà, des poètes de banlieue qui causent.
C'est au quartier de les créer, c'est au premier concerné de les créer. Elles mènent toutes, elles mènent toutes à des impasses. Si, par porte de sortie, tu entends la possibilité pour un tel ou un tel de bien vivre, de sortir du quartier et donc individuellement de finir voilà par regagner le centre-ville et d'avoir un petit appartement dans le centre-ville. Bon, je dirais oui, effectivement, ouais, la débrouille, etc. Mais si tu me parles de porte de sortie collective, ça veut dire une remise en question de A à Z des codes et des règles sur lesquelles est construite notre société. Je suis désolé de te le dire.
Donc le boulot, tous ces assos, par exemple, qu'il peut y avoir dans ces quartiers, c'est vain ?
Je dis pas ça, je dis pas ça.
Attention, attends,
je
relaisse
moi
t'arrêter.
Vas-y.
Mettre des pansements sur des jambes de bois, voilà, ça n'a jamais enfin le problème il n'est pas résolu quoi. Investir quelque part dans l'associatif, moi je veux dire l'individu en lui-même, c'est clair que voilà, il a tout mon respect parce qu'il faut y aller quelque part. Aller sortir des toxicos de la CAM, aller voilà, rescolariser des jeunes, faire vraiment tout ce travail là, c'est respectable, mais ça ne résout pas malheureusement le problème de fond. Le problème de fond, c'est voilà, l'égalité des droits.
La plupart des associations qui essaient d'intervenir sur le terrain des quartiers sont soit face à un travail d'urgence, où il s'agit un petit peu de colmater des brèches, ou soit dans un travail de complaisance par rapport à une municipalité ou à une politique donnée dans une ville. C'est, comment dirais-je, c'est de la gestion. Voilà, on gère une situation qui est vraiment pas reluisante et qui risque de dégénérer, selon beaucoup.
La véritable porte de sortie, justement, elle passe par le savoir et par l'instruction. Tu vois, nous, c'est ce message-là aussi, quelque part, qu'on a envie de donner à notre plus jeune auditoire, tu vois. C'est de prendre les armes, et les armes, elles sont dans l'instruction, elles sont à l'école.
C'est un tout, il y a effectivement le rôle de nos parents, il y a la figure de nos parents, qui est aussi un carburant, quoi. Après, c'est aussi un tout, il y a nos caractères, nos personnalités, nos vécus, nos expériences, nos rencontres, nos lectures, etc. C'est pétri de tout ça, quelque part. Et que l'idée de rappropriation, elle est aussi au carrefour et au centre de notre travail. Se rapproprier, déjà, nos propres visages, notre propre image. Se rapproprier les mots, l'usage des mots, comme des armes et des moyens de défense aussi. Se rapproprier une relative indépendance économique. Ça, c'est le travail qu'on essaie de faire à travers notre label. Quand tu parlais de traduire les textes de nos chansons en actes, bah, la première des traductions en actes, c'est celle-là. C'est d'incarner dans notre démarche, au sein d'une industrie rap qui est loin d'être tendre, froide, cynique, elle est sans pitié. C'est la finance, c'est l'argent, c'est le profit, c'est les gros consortiums, les grosses majors, etc. Donc au sein de cette industrie, bah, d'être le moins altéré par la pourriture, c'est créer un label, être producteur de nos propres disques, n'être tributaire de l'aval de personne pour débloquer des budgets et créer ce magazine, par exemple. C'est nos billes, c'est notre argent. Et personne n'a de compte à nous demander par rapport à ça. Sur le plan de la promotion aussi, on touche aussi à l'image, donc on n'entendait pas non plus en faire n'importe quoi. Promotionner ça comme un paquet de lessive, tu vois. Il y a quelque chose à défendre derrière, il y a une histoire, il y a des tripes. Le quartier, l'immigration, l'histoire de la colonisation, c'est tout ça la rumeur.
Dans mes
larmes mais j'arrête pas de chialer. Faut que j'évacue comme une diarrhée. Je sais pas si tu comprends, je me soulage. Fous de rage, j'ai des pages pleines d'insultes. Lâche la bête et elle fait un carnage. Réservé aux adultes, je suis un moteur, poussé à la rupture. Avec tellement de chevaux sous le capot pour pas qu'on me capture. Pur produit de ta banlieue. Là où au carrefour de la vie j'aurais grillé les feux. Et au feu les pompiers quand les véhicules brûlent. Au pied des bâtiments, que des virgules autour de pitbulls circulent. Si t'as rien à foutre dans le coin, soit t'achètes, soit tu vends, soit tu payes ton joint. D'un côté c'est les bénéfs, de l'autre les tiges. Ou la tôle pour quelques piges. Dans ces villes dortoirs, cœur du litige, où on est tiré du sommeil par la faim. Comment veux-tu qu'on ne pense pas qu'à l'oseille à la fin? Putain j'assiste au combat de coq qui troque leur bec pour un prolique. Tous au chômage chronique, tous malades parce que par la racine la fleur pue. Alors on soigne à la médecine douce et à l'air pur.
Peux-tu entendre le silence de ma rue? Peux-tu entendre le silence de ma rue? Peux-tu entendre le silence de ma rue?
Proche de la fin, j'ai bientôt noirci mes feuilles blanches. Et vu que le fruit se décompose, faut que je m'accroche à la branche, pas à ta blanche poudre. Tu serais content de voir mes cellules se parfumer à la soude. Ou mon cerveau dans un thé à coudre, tout pour me dissoudre. Putain de trottoir, jamais trop tard pour trouver de l'alcool dans ce dépotoir. Faut croire que le poison se plaît dans nos quartiers, vu que c'est le seul à pouvoir circuler sans papier. Et quand c'est pas derrière les barreaux, c'est des gosses à l'hosto. À police musclée correspond contrôle costaud. Hostile, parce que jamais tranquille, puisqu'ils nous veulent mort ou entièrement. Docile, un pour tous, tous pourris. C'est leur nouvelle devise. Donc t'étonne pas si personne te sourit. Incompatible avec tes lois, comme tes règlements. Comme ces putains de décrets que j'arrose excrément. Extrêmement dur dans mes textes, comme sur le pavé. S'ils savaient ce que je ferais si j'étais pété de thunes. Quand j'ai la plume gavée, faut surtout pas que tu me pousses. Avec cette rancune, mais sur le bitume, je les encule tous.
Peux-tu entendre le silence de ma rue? Peux-tu entendre le silence de ma rue? Le silence de ma rue.
Oh, ça va les gars? Bah qui là? Ouais, ça va bien?
Ça va,
tranquille? Ça va, tranquille? C'est comment ton prénom déjà? Makila.
Ah ouais.
Fabien.
Jacques.
Ok.
Ok. Ça fait plaisir hein, de vous revoir. Et puis ça fait plaisir aussi voilà, que vous soyez venus aussi nombreux que la dernière fois. Quoi. Parce que, comme on disait avec Philippe, vraiment, on a passé un vraiment super bon moment en votre compagnie. Quoi. Un bon feeling, quoi. Vraiment un bon feeling. Quoi. Donc. On va dire que on n'y est pas allé aujourd'hui, hein, on se dit ah tiens, ouais, il y a l'atelier Aouille, ah ouais, vraiment bon esprit, sincèrement quoi. Donc voilà, et puis en plus les textes étaient remarquablement bien écrits quoi.
La véritable idée c'était d'exécuter un texte vite, dans les bons délais, bien écrit, sur un thème du précis, le savoir est une arme. C'est une phrase d'un indépendantiste martiniquais qui s'est battu, qui a combattu auprès des maquisards algériens. Pendant la guerre d'Algérie et qui disait voilà le savoir est une arme, le savoir quelqu'un qui a le cerveau plein et ben ça peut être encore plus dangereux qu'un fusil quoi tu vois donc et moi c'est une phrase qui m'a galvanisé pendant toute moi et Philippe pendant toute notre enfance et c'est ça un peu qu'on a comme moteur quoi. On se dit que bon le rap c'est bien mais le rap à partir du moment où ça te nourrit où ça te donne quelque part des valeurs qui te poussent vers l'instruction et vers le savoir. Là ça m'intéresse. Vous allez fonctionner par petits groupes et vous allez vous faire tourner le micro et vous exercer quelque part, voilà quoi, à la scène. Ok.
Allô, Amé.
Le savoir est une arme, c'est une phrase de Frantz Fanon. Et un jour, Castoriadis nous disait, en écoutant un entretien avec lui qu'on avait diffusé, il nous avait dit, c'est une bouteille à la mer qui arrive à bon port. Et c'est vraiment très émouvant d'entendre aujourd'hui cette phrase de Frantz Fanon, le savoir est une arme, repris dans la bouche des gars de la rumeur et ensuite repris par ces jeunes dans cette maison des jeunes et de la culture de Houille en banlieue. Voilà, nos dangereux subversifs, nos dangereux mauvais garçons en train de faire les profs, en train de passer le relais, et certain que effectivement, en effet, le savoir est une arme.
Massif, 78 Houille. Alors non, ce qu'on attendait, c'est parce qu'en fait, tu vois, ils ont plus d'expérience que nous. Ça fait longtemps qu'ils sont dans ce métier. Et comment dire, vous allez être épaulé par eux comme des grands frères. C'est ça que ça va nous apporter.
Ali, ouais, j'habite à Houille, pareil, au Pharaon. Moi, ça fait que 2 mois que j'ai commencé depuis le dernier atelier où ils sont venus. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écrire. J'ai écrit plusieurs textes, au moins une quinzaine. Mais j'espère que ça ira plus loin.
Parce que tu vois, c'est comme si on était un petit peu dans une bulle. On voudrait faire partager aux autres ce que eux ne voyaient pas forcément un petit peu tous les jours. Et ça, qu'est-ce qui nous aide avec le rap?
On fait du rap, mais bon... Le rap qu'on fait, c'est pas... Enfin, le rap d'aujourd'hui, maintenant, c'est facile de dire « Ouais, nique la police, nique ta mère », les trucs comme ça, c'est facile. Tout le monde peut prendre une feuille, un stylo, écrire ça, comme disent la rumeur. Maintenant, le rap, c'est un moyen de s'exprimer et puis de montrer aussi aux personnes, de changer l'image du rap, quoi. Maintenant, tout le monde rigole du rap, hein. Nique ta mère, c'est facile de lire, ça aussi. Excusez-moi de l'expression, mais bon. Par exemple, le groupe NTM, il y a 20 ans, voilà, maintenant, on n'écoute plus NTM, c'est fini, ce groupe-là.
En fait, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il y a une évolution du rap, mais... c'est une mauvaise évolution. Il est passé d'un rap engagé, d'un rap plutôt revendicateur, à un rap soumis où c'est plus, comme vous pouvez voir dans l'équipe américaine, les femmes, l'argent facile, des choses comme ça.
Moi, c'est Bougalou. En fait, je voulais dire, dans les clips, on passe toujours genre la même chose, à peu près toujours la même chose. Les meufs à poil, belle grosse voiture, plus aussi les gens avec beaucoup d'argent, des bijoux qui brillent, tout ça, des trucs comme ça. Mais c'est pas la vie, ça. Je veux dire, moi, quand je marche dans la rue, je vois pas toujours ça, quoi. Je vois pas autant de belles voitures. Les meufs, toutes les meufs sont pas en string en train de marcher dans la rue, quoi. Donc voilà.
Ça, c'est ce que veulent nous faire croire les Américains, c'est leur rêve américain, comme les émissions qu'ils montrent à la télé. Moi, je sais, il y a une professeure, elle m'a appris ça, ils nous montrent tout ça à la télé, mais faut aller voir ce qui se passe là-bas, ils nous montrent pas le mauvais côté de l'Amérique, en gros.
Mais en fait, le rap, il doit raconter quoi, vos fantasmes ou vos cauchemars, hein?
Il doit simplement illustrer, parce que faut dire que dans la hiérarchie sociale, on est bas et on essaie de monter dans cette hiérarchie sociale, on essaie d'évoluer. Et par le biais du rap, on exprime nos engagements et voilà, ce qu'on veut, ce qu'on désire. C'est ça exactement le rap. Comme on dit, comme là, on a un petit dicton ici, on n'est plus en 1995. Il y a une petite évolution. En France, ça a changé. On a plus de droits, mais bon, les mœurs, elles évoluent, les gens aussi, tout. Mais c'est pas la galère qu'il y avait il y a 10 ans. Si tu te rappelles, des émeutes, des choses comme ça, les revendications, les cités transit. Ce soir, moi, je viens d'une cité transit qui devait durer 18 mois. C'est une cité qui sert à reloger les immigrés quand ils étaient dans les bidonvilles, les faire passer dans des bâtiments. Moi, je suis français, mais j'ai des origines algériennes. Mon père et ma mère sont algériens. Et si tu veux, c'est une cité transit qui devait durer 18 mois. Enfin, le compte a duré 18 ans. Voilà, dans cette ville ici, oui. C'est comme, tu vois, les cités que tu peux voir dans le quartier nord de Marseille, que tu peux voir à Trappes, les choses comme ça. Voilà, c'est ça. On vit la galère quotidiennement, mais faut dire ici non plus, on n'est pas à Sarajevo, on n'est pas en Irak ou en Palestine. On est peut-être des victimes, mais pas à ce point-là. Et c'est pour ça qu'on essaie de s'en sortir, parce qu'en France, on peut s'en sortir en travaillant. Il n'y a que les mains qui rapportent. Comment dire, faut travailler, faut s'instruire, comme on dit, le savoir est une arme. Exactement. Non. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. C'est pas nous qu'on essaie de faire changer ou choses comme ça ou notre quartier. C'est la vision que les gens ont de nous. Comme moi, je dis dans un de mes textes, je dis, déçu de l'état de mon vécu et de l'état de nos véhicules, voit notre image celle que l'état leur véhicule.
Mais les quartiers, c'est vraiment une impasse ou il y a plein de portes de sortie si on les cherche?
Je veux dire, la sortie qu'il y a, la grande sortie, le grand hall qu'il y a, s'appelle l'école. Mais il y en a plein qui ont pas réussi à tenir le cap. Moi, là, j'ai pas réussi à tenir le cap, j'espère m'en sortir. Mais bon, voilà.
Ok, alors Yalla, hein, comme on dit chez nous.
Yalla, c'est le Marocain, il dit ça.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise sous un drap de couleur fade, contrastant ses souvenirs. Tarbeda, un embarcadère ensoleillé au départ. Une arrivée sur un ponton terne et un visage hilar. Celui d'un contremaître de l'encre, un tampon à la main, frappant le flanc de cette valise, retenant la douleur. Ses visages s'engouffrant dans un train, direction l'usine de camion pour un bien dur labeur. Les sirènes n'ont pas de voix mélodieuse, leurs appels stridents ont force à cingler leurs espoirs tels des moqueuses. Ces vestiges de période dure qu'elles gardent en elles, ces séquelles marquent son cuir et le morcel.
Je suis allé faire parler le cuir usé d'une valise, entreposée sous la poussière terre d'une vieille remise. Légère surcrue, l'on balafrait de part en part. Une étiquette fanée rappelle son premier départ. Et janvier 53, la tatouée d'un plein cap sur le froid. Au fond de ce bagage, pas d'invitation au voyage, mais la plaine de Rélizène qui pleure en fils parti gagner le droit de ne plus errer affamé. Au fond de ce bagage, la coupure tachée d'un journal où s'étale le résumé du procès des agitateurs d'une usine embrasée. C'est une valise dans un coin qui hurle au destin qu'elle n'est pas venue en vain.
Philippe, de la rumeur, le bavard, le B-A-V-A-R.
Puisqu'Ekou est là aussi, je veux simplement pour savoir, vous vous retrouvez un peu dans les textes de leur rap ou pas?
Tout à fait, on ressent le... De toute façon, on a plus ou moins les mêmes quotidiens. On sent les passages par lesquels on est passé, à leur âge, évidemment.
Disons, c'est une politisation qui a la mesure de leur âge et de leur prise de conscience, quoi. C'est-à-dire que forcément... Comme disait Philippe, c'est vachement basé sur l'instinct, plus que, on va dire, sur le recul et la réflexion. Mais bon, c'est aussi intéressant parce que le rap, c'est aussi ça, quoi. Plus on a pris en maturité, et puis on est devenu, on s'est politisé. Mais après, politique, c'est pas le sens cravateux du terme, mais tu vois, je te parle de fluctuations boursières et je suis en train de te sortir des constats pompeux, tu vois, sociologiques, quoi que ce soit, tu vois. C'est avoir conscience de sa condition. De pas avoir d'illusions. Je pense que des illusions, quelque part, ça nous a bercé pendant toute notre enfance. On va pas cracher dans la soupe, quelque part, tu vois. Il y a des très belles choses qui se font ici en France, tu vois. Mais maintenant, après la responsabilité de l'État français, après les décolonisations, ça, ouais, ça, on s'interroge. Et puis après, le rap, on va dire, comme exutoire, comme façon, quelque part, justement, voilà, quoi, d'accompagner son quotidien et la difficulté de son quotidien, voilà, moi, c'est ça avant tout, quoi, tu veux dire. Après, la fonction sociale, économique, sortir de sa cité avec le rap, quelque part, c'est nous, on va pas mettre ça dans la tête des gens, quoi. Ça fait depuis 15 ans qu'on fait ça, tu vois ce que je veux dire. Au début, on faisait ça, on gagnait pas un rond, tu vois. Bon, maintenant, ça commence un tout petit peu à se débloquer, parce qu'on a pris un petit peu plus de notoriété. Mais bon, faut toujours se péter, quoi. Faut se battre, tu vois. Et puis, encore une fois, on fait pas que ça, quoi. Tu vois, moi, j'étais étudiant il y a encore un an, hein. Tu vois, voilà, j'allais à la fac, lui, pareil, il t'a fait, il a été étudiant. Donc, quelque part, aujourd'hui, on peut pas s'accorder, aujourd'hui même, à notre échelle, le luxe, quelque part, de faire que du rap. Et de toute façon, on n'en a pas envie, tu vois. Qu'on vende aujourd'hui 40 000 disques, qu'on en vende 1 million, qu'on en vende 200 disques, qu'on en vende machin, on a besoin quelque part de se nourrir d'à côté. Et le rap, comme vecteur quelque part, voilà, d'accomplissement personnel, c'est pas suffisant.
Fallait pas relancer Ekou sur le sujet, parce que là, il y en a pour... Il faut y retourner parce qu'ils vous attendent.
Fallait pas l'inviter.
Allez, on
Merci La Rumeur, c'était un reportage d'Olivia Gesbert. Pour les repères des amis de là-bas, si j'y suis, toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à radiofrance.fr. Allez sur France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Olivier Riotor et Michel Bézikian. Réalisation Yann Chouquet, assisté de Raphaël Moutard, assistante de Pascal Pascardillo. Le répondeur, c'est 01 56 40 37 37. C'est Christophe Imbert qui vous écoute. Et le mail de la base où j'y suis, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Je rappelle le principe des repères de la base où j'y suis. Vous trouvez un bistrot, un endroit qui vous plaît pour vous y retrouver entre amis de la base où j'y suis chaque semaine et vous nous le faites savoir 01 56 40 37 37. Réclame.